Bonjour Constantin.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Nous sommes ravis de vous retrouver pour découvrir la nouvelle édition de France catholique. Nous commençons. Vous évoquez dans votre rubrique Actualité la chute de la natalité en titrant Le nouveau malthusianisme. Alors de quoi s'agit-il?
Alors, le malthusianisme, c'est une idée ancienne, hein, qui a quelques siècles. En gros, c'est la réduction de la population. Nous parlons effectivement d'un nouveau malthusianisme, puisqu'il y a eu, il y a quelques jours, l'apparition du nouveau bilan de l'INSEE qui dresse un peu l'état de la natalité en France et qui a établi qu'il y avait eu en 2023 723 000 nouveau-nés, ce qui représente une baisse de 19 000 par rapport à l'année précédente, mais surtout qui est le nombre le plus faible de naissances depuis 1946. Alors là où ça peut avoir une incidence, c'est que il y a ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire c'est la proportion que représente tel ou tel chiffre dans l'accroissement de la population. Eh bien, le solde naturel est de 0,3, ce qui veut dire que l'accroissement de la population française est dû pour un tiers aux naissances sur notre sol et pour deux tiers par l'apport de l'immigration. Alors, cette chute de la natalité n'est pas sans poser problème, explique Benoît Dumoulin, qui est le directeur d'Ictus et qui signe cette chronique actualité dans le nouveau numéro de France Catholique. Plusieurs problèmes. D'abord, sans croissance démographique, eh bien, il n'y a pas de croissance économique. Et puis surtout, qui dit natalité dit puissance. L'exemple de la guerre en Ukraine, hein, le montre bien, hein, avec trois fois plus d'habitants que l'Ukraine. Eh bien, tout simplement, la Russie peut déployer plus d'hommes sur un plus long terme, hein. Donc, c'est vraiment pour prendre un exemple, j'allais dire, brûlant dans l'actualité. La conséquence, c'est donc que eh bien, la baisse de la natalité, telle qu'on l'observe aujourd'hui en France, eh bien, entraîne mécaniquement une baisse de la puissance du pays. C'est pour cela qu'on comprend mal, hein, explique Benoît Dumoulin, on comprend mal les injonctions écologistes si ces injonctions à sauver la planète ne s'accompagnent pas d'une politique familiale. Puisqu'après tout, à quoi bon sauver la planète si nos enfants ne peuvent pas en profiter puisqu'ils n'existeront pas, demande toujours Benoît Dumoulin, qui rappelle que ce malthusianisme, qui est cette aspiration à une réduction de la population, est tout simplement la conséquence d'un déficit d'espérance qui devient mortel.
Un grand merci, Constantin, pour l'éclairage de ce sujet d'actualité dont les lecteurs pourront prendre davantage conscience. Dans l'édito de ce nouveau numéro, consacré à la terreur révolutionnaire et à la guerre de Vendée, il est question de l'héritage de 1793. Alors pouvez-vous nous en dire plus?
Alors pourquoi, oui, 1793? Eh bien, parce que 1793-2023, nous sommes 230 ans après cette année qui a été marquée par la terreur, qui a été marquée par l'exécution de Louis XVI et donc, vous l'avez dit, par la guerre de Vendée, par l'écrasement de la Vendée. Alors Gérard Leclerc parle dans son édito d'héritage de 1793, puisque, pour reprendre les mots de l'historien François Furet, la Révolution n'est pas une transition, mais une origine. Il faut donc voir quel est son héritage. Et cet héritage, c'est tout simplement l'antichristianisme. Alors, avec une précision, c'est que l'antichristianisme révolutionnaire, il y a des degrés dans cet antichristianisme. Mais la constitution civile du clergé, qui, pour faire simple, demandait en gros aux prêtres à l'époque eh bien de prêter serment, de montrer une allégeance à la République plutôt qu'à Rome, eh bien cette constitution civile du clergé n'est pas la destruction des églises qui allait avoir lieu quelques mois plus tard, mais il s'agit d'un même mouvement. Un même mouvement qui ne prend pas fin lors de l'épisode de Thermidor, hein, qui est aussi celui de la mort de Robespierre et la fin de la Terreur, mais un mouvement qui a continué dans l'histoire, par exemple au début du XXe siècle, hein, avec le léninisme en Russie à l'occasion de la révolution bolchevique en 1917, hein, qui voudra continuer, dans une certaine mesure, le travail de la Terreur. Alors l'héritage de 1793, 1793, c'est ce que Gérard Leclerc nomme la laïcité restrictive, qui réduit au fort interne la question de la foi. La laïcité restrictive, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler le laïcisme, hein, dont parle l'historien Claude Quettel, hein, dans une interview qu'il donne dans France catholique, et qui, là aussi, place eh bien, ce laïcisme comme héritier de la terreur. Alors, on comprend mieux pourquoi, dans ce climat, eh bien, il y a des actes antichrétiens, où il y a des volontés, hein, de déboulonner certaines statues. Nous avons évoqué sur cette antenne ensemble la semaine dernière les activités, par exemple, d'une association telle que la Libre Pensée. Eh bien, tout cela procède du rationalisme laïciste qui correspond à l'identité d'une république qui, elle, est l'héritière de la Révolution française.
Et les lecteurs, justement, auront l'occasion de se plonger dans la période de la Révolution française, en particulier avec la résistance vendéenne. Que retenir de cette période ?
Alors déjà, retenir qu'elle existe, puisque la guerre de Vendée est clairement une zone d'ombre, hein, aussi bien, j'allais dire, dans la production grand public des livres d'histoire ou des films historiques, également une zone d'ombre dans les manuels scolaires, alors que cette guerre de Vendée, cette résistance vendéenne qui débute en 1793, qui est peut-être, soit dit en passant, l'année la plus sanglante et la plus sombre de l'histoire de France. Puisque 1793, explique Guillaume Zeller, hein, qui signe l'article sur le sujet dans France catholique, 1793, c'est l'organisation scientifique des exécutions, des tueries, des persécutions, des arrestations par une assemblée, hein, qui est la convention, élue au suffrage universel masculin et qui a succédé à l'Assemblée nationale constituante de septembre 92. Alors, que retenir de cette période, eh bien, c'est que la Vendée se soulève pour s'opposer à la levée en masse qui avait été décrétée par la République pour grossir les rangs de l'armée républicaine et aller combattre aux frontières de la France. Une Vendée qui sera écrasée par la République avec des scènes affreuses, hein, qui sont narrées dans le magazine, hein, par exemple, comme les noyades de Nantes, hein, qui étaient surnommés de manière plus que cynique comme des baptêmes patriotiques. Et puis, bien sûr, on peut retenir l'esprit de résistance des Vendéens.
Esprit de résistance dont vous retracez les origines.
Oui, parce que tout a démarré avec la résistance à la levée en masse, hein, dont on vient de parler, mais aussi il y a plus profondément une résistance à la déchristianisation, puisque les révolutionnaires qui étaient pétris de la philosophie des Lumières voulaient régénérer l'homme dans la Révolution et étaient en lutte contre l'héritage et contre la foi catholique. Cette résistance, d'ailleurs, n'est pas sans susciter l'ire de certains députés, hein. Nous retranscrivons ce qu'avait expliqué, Barrère, hein, le député Barrère en octobre 93. Il avait parlé de l'inexplicable Vendée qui existe encore. Et ajoutait-il, les efforts des républicains ont été jusqu'à présent impuissants contre les brigandages et les complots royalistes qu'elle recèle. La Vendée devrait être anéantie depuis longtemps. Alors, la population vendéenne avait été clairement influencée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et en particulier, d'ailleurs plus que par Saint Louis-Marie lui-même, par ses héritiers, puisque Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait surtout beaucoup évangélisé la région de La Rochelle. Alors, ce sont ces héritiers de la compagnie de Marie en Vendée, qui sont peu nombreux, mais qui avaient un zèle remarquable et qui vont sillonner la Vendée. La sillonner avec des missions, et c'est la raison pour laquelle un très grand nombre d'oratoires, de chapelles pour Marie vont fleurir à travers tout le territoire vendéen. Ils vont aussi répandre la dévotion au Sacré-Cœur, un Sacré-Cœur d'ailleurs que l'on retrouvera sur les habits des résistants vendéens pendant la guerre de Vendée. Alors, il faut noter que ces héritiers de Saint-Louis-Marie, Grignon de Montfort, pendant le soulèvement, vont être accusés de fanatiser le peuple, hein, je cite, et le rôle de Saint-Louis-Marie de Grandmontfort était même reconnu jusqu'à Paris, puisque le député suppléant de la Vendée, hein, Mercier du Rocher, avait expliqué que Saint-Louis-Marie méritait d'être pendu. Saint-Louis-Marie est mort avant la Révolution, mais en revanche, ses héritiers, eux, seront persécutés pendant la Révolution, puisqu'ils seront, comme les autres prêtres, réfractaires, puisqu'ils auront, pour l'écrasante majorité, refusé de prêter serment pour la constitution civile du clergé. Eh bien, la majorité de ces héritiers de Saint-Louis-Marie seront persécutés. Alors, ce qu'il faut retenir de cet esprit de résistance, c'est que ses origines remontent donc à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, à cette dévotion mariale, à cette dévotion au Sacré-Cœur. Et puis, il y a aussi peut-être ce qu'a pu insuffler Saint-Louis-Marie et ses héritiers à tous ces résistants vendéens, c'est aussi la notion de pardon. On peut citer par exemple les Montfortaines, qui étaient les filles de la sagesse, qui soigneront les blancs et les bleus, hein, c'est-à-dire les royalistes, les vendéens et les républicains, les vendéens et les révolutionnaires, sans faire de distinction. Et puis on peut aussi évoquer le pardon de Bonchamp, hein, grande figure vendéenne, qui, alors qu'il était en agonie, alors que les troupes vendéennes qui venaient de faire prisonnier 5000 républicains et qui venait lui réclamer que ces républicains soient tués, eh bien, avait demandé, et cette volonté sera respectée, avait demandé à ce que ces 5000 républicains soient pardonnés, soient graciés, ce qui a été le cas. C'est la conclusion d'ailleurs de Fabrice Madouas, qui est l'auteur de l'article dans France catholique. Le pardon, voici le legs le plus émouvant du père de Montfort.
Et la postérité de la terreur est évoquée à travers une interview de l'historien Claude Quettel que vous avez mentionné il y a quelques instants. Il explique quelle est la matrice des totalitarismes.
Oui, c'est pour ouvrir le sujet, parce qu'on pourrait penser que 1793, que la terreur n'était qu'une parenthèse dans l'histoire de France, et non seulement ça n'a pas été une parenthèse, mais dans une certaine mesure une origine, hein, comme expliquait Gérard Leclerc dans son édito, mais également pour l'histoire mondiale, pour l'histoire occidentale, et bien cette terreur a été, comme vous venez de le dire, la matrice des totalitarismes, puisque les grands totalitarismes du XXe siècle ont un point commun, c'est de vouloir créer l'homme nouveau. La Révolution française, l'homme nouveau pour elle, c'était l'homme régénéré donc par la Révolution, un homme pétri par les Lumières, pétri par l'égalitarisme, la liberté, les droits de l'homme. Plus tard, le communisme, d'ailleurs nous publions une photo, petite parenthèse, nous publions une photo dans cette interview qui est assez rare, une photo de l'inauguration en 1917 d'une statue de Robespierre à Moscou, dont Lénine dira qu'il était un bolchevique avant la lettre, et cette photo, plus que tout autre propos, montre bien l'influence de la terreur sur la révolution bolchevique. Donc les totalitarismes du XXe siècle, le communisme, mais aussi le fascisme, le nazisme, prétendront tous, à la suite de cette terreur, créer un homme nouveau. Et il n'y a rien de plus normal, explique Claude Quettel, puisque l'homme nouveau n'apparaît pas par un phénomène de génération spontanée. Il faut un système complexe et imposant, il faut en gros le système totalitaire pour pouvoir créer le nouvel homme, et c'est finalement la prétention ultime, hein, c'est donc la prétention totalitaire, puisque prétendre créer un nouvel homme, c'est bien se mettre à la place de Dieu. D'ailleurs, une précision sur ce sujet, les auditeurs ont peut-être tiqué en entendant que le point commun de tous les grands totalitarismes, c'est cette notion d'homme nouveau, puisque l'homme nouveau, c'est ce sont des mots que l'on retrouve notamment chez Saint Paul. Donc c'est là l'occasion de faire bien le distinguo entre l'homme nouveau communiste ou fasciste et l'homme nouveau qu'explique Saint Paul, puisque pour les catholiques, l'homme nouveau existe. C'est Jésus, hein, c'est le nouvel Adam. Et puis, explique Saint Paul, l'homme nouveau, c'est le croyant qui va renaître par la grâce de Dieu.
Un grand merci, Constantin, pour nous avoir présenté, en tout cas, le dossier brûlant hein, de la nouvelle édition de France catholique, hein, à savoir donc 1793, hein, au cœur de la Révolution française et de la résistance vendéenne. Je rappelle aux auditeurs le site de France catholique, c'est france-catholique.fr, france-catholique.fr. Merci encore, Constantin.
Merci Claire, merci à vous.
Et on vous retrouve avec joie jeudi prochain.
Et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.